Marie-France, on va parler de ce projet de 2 milliards de dollars. C'est un projet immense du promoteur Carbone Léo. Et le maire de Montréal, évidemment, est tout sourire. Lui, il est en faveur de ce projet Royal Mount, le maire Philippe Roy. Mais la mairesse de Montréal est pas mal plus tiède. Elle dit, je ne dis pas non au projet, mais il va falloir prendre un pas de recul.
Absolument. Et d'ailleurs, le promoteur est tout à fait d'accord avec cette idée de retourner à ses cartons à dessin. La ville de Montréal a même dit qu'il pourrait utiliser les outils légaux pour suspendre le projet dans sa forme actuelle. Tu l'as dit, c'est un immense complexe touristique, commercial, tour à bureau, très controversé parce que mal planifié. Il va augmenter la congestion dans un des carrefours autoroutiers les plus achalandés, sinon le plus achalandé au Canada. Et puis, il va falloir mettre le projet résidentiel au cœur du projet avec des services. Et donc, cette histoire là montre plusieurs choses. D'abord, dans un premier temps, ça avait, même si la mairesse était plus ou moins d'accord, ça passait. Il a fallu cette commission formée d'élus pour dire « wow, retourner destiner l'affaire ». Ça montre, cette histoire-là, l'insouciance jusqu'à un certain point et le poids des promoteurs par rapport à des villes comme Montréal. Je te rappellerai le projet de Griffintown qui a été destiné vraiment tout croche. On n'a pas pensé aux jeunes familles, on n'a pas pensé aux écoles, on n'a pas pensé à en faire vraiment un quartier de vie. Ça s'est construit de manière assez anarchique et on ne voudrait pas répéter la même affaire avec Royal Mount. C'est un projet privé, je le rappelle, qui a besoin toutefois d'infrastructures publiques, le REM, le métro, les autoroutes, mais qui se fout, pour l'instant, dans sa première version, de la trame urbaine. Ça montre aussi le triomphe ou la puissance de nuisance des villes défusionnées, parce que c'est ça, Ville-Mont-Royal, qui voit un moyen extraordinaire de taxer, d'aller engranger de nouveaux revenus, mais qui se fout de la vision commune. C'est pas un projet local, Royal Mount. Ça a un impact régional. Ça va avoir un impact, y compris jusqu'au Carrefour Laval, sur la rive nord de Montréal.
Bien sûr, bien sûr. Et pas seulement ça, sur maintenant ce qui est devenu une très grande salle de spectacle qui marche bien, la Place Belle.
Absolument. Et y compris sur le centre-ville, le quartier des spectacles de Montréal, qui est vraiment à quelques kilomètres de là, s'inquiète également. Donc, des répercussions sur la ville au complet. Et c'est une petite municipalité de banlieue enclavée qui a le pouvoir de faire ça. Donc, c'est bien qu'ils aient été rappelés à l'ordre. Puis, il ne s'agit pas ici, Paul, d'être contre le développement, mais bien de le faire en respectant une vision globale et commune de la ville-centre et pas de le voir comme une banlieue 2.0. C'est un projet privé, mais dans un environnement global, partagé, avec un impact collectif. Et il y aura des coûts collectifs à ça. Nous allons tous payer. Ce n'est pas juste le promoteur qui va payer. Alors, il va falloir trouver de sa très bonne solution, parce que malgré tout, ça va être un joyeux bordel d'un point de vue transport. Ça va être un poids supplémentaire pour les infrastructures qui sont déjà surutilisées. Et permets-moi d'avoir un petit soupçon, un petit doute que je soumets à la mairesse qui nous écoute certainement. L'idée de faire du quartier Royal Mount une destination touristique, parce que c'est vraiment comme ça qu'on l'a présenté. Hein. On va venir à Montréal pour aller voir le quartier Royal Mount. Est-ce que c'est la bonne idée? On est à l'heure où les villes sont des villes-États qui sont vraiment des phares régionaux, qui rivalisent entre elles d'offres culturelles, d'architecture complètement novatrice. Et là, on choisirait Montréal parce qu'il y a un gros centre d'achat 3.0 avec des glissades d'eau.
Ben, tu fais très bien d'ailleurs de t'interroger parce qu'aux États-Unis en ce moment, la tendance n'est plus à ces méga-centres commerciaux.
Ben non.
Il y en a même qui sont devenus des méga-centres fantômes.
Oui.
Et il y a toujours un recul par rapport à ce qui se fait aux États-Unis là, avant qu'on comprenne. Attention à ce que ça ne devienne pas un énorme éléphant blanc.
Inclus, vraiment enclavé dans la ville de Montréal, qui plus est. Donc, vraiment, soyons plus ambitieux. Donnons la chance aux coureurs. Voyons voir la deuxième version du projet. Mais je pense que cette fois-ci, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élus, y compris jusqu'au niveau provincial, donc qui vont être vigilants.
Bon, voilà, l'autre sujet beaucoup plus important parce que, évidemment, on veut savoir pourquoi le reste du Canada, le ROC, oui. le Rest of Canada, ne nous aime pas comme il nous aimait la veille du référendum de 1995 à la place, au Square Dominion.
Exactement, le fameux Lovin. Toi qui as parcouru le Canada d'est en ouest, t'as certainement pu voir, prendre le pouls, comme le sondage Angus Reid, donc, qui vient d'être mené auprès de 4000 Canadiens, nous dit l'état de la fédération, vraiment le Canada est un état plus divisé que jamais et un des faits saillants, c'est l'hostilité de toutes les autres provinces, particulièrement l'Alberta et la Saskatchewan, envers le Québec. Puis j'ai envie de dire, ouais, puis le taux de répondants qui considèrent le Québec comme une province alliée ne dépasse jamais 10% partout au Canada. Le principal sujet de discorde, c'est le pétrole, notre attitude face au pétrole. On ne veut pas de pipeline sur notre territoire. Et les répondants devaient aussi identifier la province la plus amicale envers eux. Et personne ne croit que le Québec les aime, alors que nous... Non, c'est ça, c'est un peu parano. Alors que nous, bonasses comme on est, on croit à 40% que le reste du Canada nous aime, particulièrement l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, nos voisins. C'est vraiment... en fait, ils nous détestent, puis nous, quelque part, on est un petit peu indifférents, un peu mollassons, on se fout d'eux. En fait, on se fout d'eux. On ne les connaît pas, mais ils ne nous connaissent pas. Je te dirais que les sujets... quand je regarde ça, je fais un peu d'introspection québécoise et je me dis que les sujets qui font que le Québec n'est pas aimé par le reste du Canada, évidemment, il y a l'histoire des 50 dernières années, le souverainisme, le nationalisme québécois...
Ben oui, mais là, il est presque tombé.
Ben, exactement.
Il est presque parti, le nationalisme.
Tout à fait.
L'idée de souveraineté.
Ben oui, c'est absolument plus. C'est au point
mort.
Il
y a un parti qui vivote, un autre aussi, le Bloc québécois, le Parti québécois aussi.
Oui, et puis on n'est pas sur le bord d'une crise constitutionnelle, donc ça ne reviendra pas pour les très nombreuses prochaines années. Il y a la question du pétrole. Le Québec joue sur une énergie propre et ne veut pas que le pipeline traverse.
Ça, Marie-France, je t'arrête un instant, parce qu'en Alberta, lorsque je passe en Alberta, là, ils nous haïssaient.
Oui, mais...
Là, ils disaient, le Québec puis l'Ontario, là, les grands champions de l'environnement, là, l'Ontario qui se sert généreusement maintenant de la péréquation et tout ça, des belles provinces riches de l'Est qui sont contre nous. Là.
Ouais.
Alors ça, mais... ils en avaient gros sur le cœur.
Oui, mais c'est mal dirigé, Paul, parce qu'effectivement, tu as raison de pointer l'Ontario aussi, mais la Colombie-Britannique n'en veut pas du foutu pipeline.
Absolument, tu as
tout
à fait raison.
Donc, il y a la Colombie, on n'est pas tout seul dans ce cas-là, mais ils nous haïssent particulièrement.
Ah, c'est l'Est!
Oui, il y a aussi nos spécificités sociales, notre laïcité que le reste du Canada ne comprend pas. Pour eux qui sont dans la religion multiculturaliste et dans la divinisation de la Charte des droits, ils nous perçoivent comme racistes, ils tripent sur la diversité, sauf sur la diversité du Québec. C'est donc bien bizarre, cette affaire-là. Hein?
Ouais.
Puis, je te dirais qu'on a aussi des programmes sociaux distinctifs, étranges pour eux. On fait des drôles de choix de société, mais le Canada, au fond, a un filet social assez solide quand on le compare aux États-Unis. Donc, ils ne nous aiment pas, mais ils sont comme un peu braqués.
Mais il y a un côté envieux.
Il y a un côté envieux,
oui,
tu as
oui,
raison.
Oui, oui.
Ouais. Mais je
ils
te dirais...
envient, Marie-France, en plus, notre joie de vivre.
Ah! Oui, c'est ça, notre côté européen et latin, c'est sûr.
Les Québécois sont toujours heureux, ça rit tout le temps.
Et toi, tu étais un ambassadeur.
Ben non, je n'étais pas un ambassadeur, mais j'ai dit, l'industrie de l'humour se porte bien au Québec.
C'est vrai,
beaucoup mieux qu'en Saskatchewan.
Oui, j'imagine. Mais ça me fait dire que le Canada uni est probablement un fantasme. Nous, actuellement, en 2019, on est de plus en plus politiquement et je te dirais psychologiquement canadien, c'est-à-dire plus multiculturaliste qu'on l'a jamais été, moins indépendantistes, plus conservateurs dans nos valeurs, et eux sont de plus en plus des blocs régionalistes. Il y a la Colombie-Britannique d'un côté, l'Alberta, la Saskatchewan de l'autre, l'Ontario est à part, les Maritimes à part, donc un pays de plus en plus éclaté où le Québec est le bouc émissaire, mais non plus le responsable. Fait que si le Canada éclate, Paul, ça sera pas de notre faute.
Non, ça sera pas
de notre faute.
Et d'autant plus qu'il y a un premier ministre actuel, Justin Trudeau, qui n'a pas une vision d'unicité du Canada. Au contraire, il voit un Canada éclaté de partout. Et je peux te dire une chose, dans les autres provinces,
oui.
Marie-France, que ce soit en Colombie-Britannique, que ce soit en Alberta, que ce soit en Saskatchewan, au Manitoba, on se cherche désespérément une identité. Mm-hmm. Et une approche comme celle de Justin Trudeau fait éclater justement ce caractère unique-là, mais serré, que ces provinces-là avaient auparavant.
Mais tu as tout à fait raison, on s'en va vers une régionalisation des enjeux, un Canada de plus en plus difficile à faire parler d'une seule voix. Alors, on ne l'a pas vu pendant des années parce qu'on avait le nez tourné vers nous, vers nos affaires. C'est un peu normal. Mais toi qui l'as parcouru, tu t'es certainement rendu compte. Tu ne dois pas être très étonné des résultats de ce sondage-là, finalement.
Non, pas tellement, mais je veux dire une chose. Ça ne devrait pas décourager personne d'aller voir nos Rocheuses. C'est tellement beau. Non, sérieusement.
Sérieusement, c'est vrai que c'est
beau. Mais Marie-France, si tu pars comme touriste, ils vont être fins avec toi parce qu'ils veulent avoir ton argent aussi.
C'est clair.
Et il n'y a pas eu d'animosité, il n'y a rien eu de particulier. Je pense qu'il faut faire attention derrière ces chiffres-là. Vous allez survivre, mesdames, messieurs, jusqu'à l'océan Pacifique.
Et ça en vaut la peine, effectivement. Vancouver étant certainement la plus belle ville du Canada.
Et Victoria, et puis le passage des Rocheuses. C'est vrai, c'est beau et ça nous appartient.
Bon, un coup parti, tu vas nous montrer tes photos de voyage.
On va m'installer avec le carousel à diapositive.
Oui, c'est ça, exactement.
Merci, Marie-France.
Bonne fin de semaine, Paul.